Bienvenue à la série de podcasts « Propulser votre équipe » d'O2 Coaching, avec votre hôte, Chloé Caron, fondatrice et présidente d'O2 Coaching. En tant que coach exécutive, auteure, femme d'affaires, leader d'opinion et conférencière avec plus de 20 ans d'expérience, la CSU de Chloé, sa contribution stratégique unique, consiste à créer une nouvelle génération de leaders inspirants et inspirés en ayant un impact positif sur la vie d'un million de leaders à travers ses webinaires, conférences, livres et podcasts. À travers ce podcast, Chloé et ses invités vous partageront leurs histoires de leadership, leurs défis, leurs réussites et leurs apprentissages. Les conversations mettront en évidence des conseils pratiques pour les leaders d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette série de podcasts sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Bonne écoute!
Bonjour, ici Chloé Caron. Bienvenue à mon podcast « Propulser votre équipe ». La semaine passée, si vous avez manqué mon podcast avec Chantal Doré, vice-présidente principale TI, gestion de projet chez le Fonds de solidarité, je vous invite à y aller parce qu'avec Chantal, on a parlé de l'intelligence collective et comment faire émerger cette intelligence collective-là au sein d'une équipe, dans ce cas-ci d'un comité de direction. Elle nous partage ses trucs, entre autres comment, en se donnant des rôles dans les réunions d'équipe, dans les réunions du comité de direction, chacun peut intervenir avec une approche qui amène la conversation plus loin et qui élève l'hélicoptère, pour reprendre les termes de Chantal. Donc vraiment, je vous invite à l'écouter si vous n'avez pas eu la chance de le faire. Et cette semaine, avec Ariane Laverdure, directrice générale de Genium 360, qui est une organisation spécialement conçue pour les gens qui ont fait leurs études en génie, soit les ingénieurs et autres. Et Ariane nous parle de la façon dont on bâtit une culture de coaching dans une organisation. Comment, quand on est un leader pour pouvoir faire sortir le meilleur de nos gens, l'approche de coach, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et comment elle a opéré toute cette évolution-là dans son organisation et elle-même comme leader pour devenir cette leader coach. Une femme très inspirante, vous pourrez l'entendre. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre des notes. Et comme d'habitude, je vous invite à être inspiré et inspirant. Bonne écoute! Bienvenue à nos auditeurs, bienvenue au podcast Propulser votre équipe. Aujourd'hui, on a Ariane Laverdure, directrice générale de Genium 360. Genium 360, Ariane, d'abord bienvenue, puis Genium 360, c'est quoi?
Bien, merci beaucoup, Chloé, pour l'invitation. Je suis extrêmement contente d'être ici. Et donc, bonne question. Genium 360, c'est quoi? En fait, Genium est une organisation au service de nos membres qui sont des diplômés en génie au Québec. Donc, notre mission, c'est de connecter le monde du génie pour offrir des privilèges, des services de développement, de formation, des événements à nos membres en lien justement avec le génie. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et plus. Donc, c'est la mission de l'organisation.
Puis, j'étais tellement excitée de t'avoir au micro parce que toi et moi, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Ça fait 4 ans que je suis ton évolution. T'étais une directrice marketing au Fonds de solidarité. Puis, t'as fait ce que moi, j'appelle le passage d'une gestionnaire experte vers une gestionnaire exécutive, donc quelqu'un qui est concentré plus sur son expertise. Toi, c'est marketing, transformation numérique, planification stratégique, l'expérience client. Vers ce rôle-là d'exécutive, ça a été quoi le plus grand défi, tu dirais, dans toute cette période-là pour opérer ce shift-là, opérer cette transformation-là d'une leader experte à une leader exécutive?
Ben, c'est une bonne question. Différentes choses. Tu sais, un défi, c'est justement de lâcher l'expertise. Quand on est passionné par quelque chose dont j'étais et je suis encore passionnée là, par tout ce qui est expérience client, marketing, compréhension du consommateur, et comment qu'on peut générer de la valeur pour l'organisation en le regardant. Donc, c'est pas délaisser ça, mais de permettre de laisser de la place aux équipes pour amener justement sa valeur par rapport à ce que ça peut devenir pour l'organisation. Donc, c'est vraiment un changement de perspective. C'est de regarder un petit peu plus large. de donner davantage la destination où on s'en va plutôt que de rentrer dans comment qu'on va l'exécuter. Et ça, je dirais que ça prend de l'introspection à certains égards. Puis des fois, faut dire, OK, peut-être que moi, j'aurais fait ça, mais sais-tu quoi, on s'en va quand même à la même destination. Donc, allons-y comme ça, ça va donner d'autres résultats.
Puis ce shift-là, tu dis, ça prend de l'introspection. Qu'est-ce qui t'a amené cette introspection-là? Ou c'est quoi des événements peut-être dans cette carrière-là, dans les dernières années, qui t'ont permis de gagner cette introspection-là? Puis les outils que tu as utilisés pour faire ce lâcher-prise-là, là, tu sais, c'est une chose de le dire, mais après ça, il y a des outils concrets peut-être que tu as utilisés qui t'ont aidé.
Oui, ben en fait, tu sais, c'est sûr qu'en évoluant au sein des organisations et en tranquillement évoluant sur des échelons supérieurs, ça nécessite de ce changement de perspective-là. Donc, je dirais que le plus gros choc que j'ai peut-être eu là dans ma carrière, c'est quand j'ai eu à gérer des gestionnaires plutôt que gérer une équipe en direct. Donc ça prend en effet de l'introspection parce que là, tu ne veux pas faire à la place d'eux. Et donc là, ça demande justement à se dire, bon ben comment j'adapte mon mode de gestion avec des gestionnaires pour leur permettre après ça d'atteindre les objectifs puis d'exécuter la stratégie. Et bien sûr, il y a des outils qui ont été formidables là, dans cette transition-là. D'abord, le volet... Utiliser le leadership de type participatif, là, ça m'a servi beaucoup, je dirais. Donc, plutôt que justement d'arriver très directive avec les solutions, c'est d'amener un objectif et de travailler ensemble là, sur la solution. Fait que ça a été utile. Et je dirais que le coaching aussi est arrivé il y a quelques années aussi dans ma vie. Donc, moi, comme coachée, ça m'a énormément appris sur justement trouver les solutions par moi-même, regarder des options auxquelles je n'aurais pas éventuellement autrement pensé. Et donc, ça a été d'adapter cette approche-là auprès des gestionnaires et de justement les guider, les accompagner plutôt que de leur dire comment le faire.
Quand tu parles de devenir gestionnaire, de gestionnaire, là, ça a été un moment important dans ta carrière. C'est le moment où il y a eu comme un self-awareness, comme on dirait en anglais, encore plus grand, que ton approche, ton style de leadership devait être adapté pour leur laisser l'espace. Tu dis avoir intégré pour toi-même puis pour eux l'approche de coaching. Comment on intègre ça, l'approche de coaching? C'est quoi les étapes, tu dirais, qui permettent à un leader d'adopter cette approche de coaching-là avec ses gens, que ce soit des employés ou des gestionnaires?
Bien, d'abord, il faut prendre conscience d'avec qui on travaille, je dirais. J'ai eu quelques équipes, là, si on regarde les différentes années, et ça m'a permis de comprendre qu'il faut s'adapter à la maturité de l'équipe face à sa capacité d'être coachée. Donc, je m'explique. Est-ce que c'est une équipe qui a l'habitude de se mettre le cerveau à la pâte, là, comme on peut dire, là, pour réfléchir aux solutions? Est-ce que c'est une équipe qui est habituée d'être dans une culture plus directive et donc d'exécuter ce qu'on leur dit? Donc, ça fait en sorte que la recette va être légèrement différente parce qu'il faut prendre l'équipe là où elle est. Ensuite, je parlais de la culture. Donc, c'est quoi la culture à mettre en place pour ça? Ben, il faut justement ce que j'appelle des fois la culture entrepreneuriale, c'est d'amener les gens à être aussi dirigeants. Je le fais aussi avec l'équipe que j'ai actuellement. C'est-à-dire, bon, mais OK, aujourd'hui, c'est toi la DG. Qu'est-ce qu'on fait là, face à telle problématique, face à l'atteinte de tel objectif? Donc, c'est d'amener une culture que les gens ont non seulement le droit de proposer des solutions vers l'atteinte des objectifs, mais qui ont le devoir de le faire un peu comme responsabilisé aussi. L'autre chose que je peux aussi peut-être dire, c'est la confiance. Ça prend un climat de confiance. Encore une fois, aller trop vite dans du coaching, ça peut générer en fait de l'insécurité. Puis ça aussi, c'est une expérience que j'ai vécue dans certaines équipes, c'est que ça met de la pression sur le coaché de se faire poser des questions, hein, parce que ce que c'est le coaching, c'est qu'en fait, on pose des bonnes questions, on écoute, on fait réfléchir la personne à quelles seraient les options, plusieurs options, puis après ça, on lui demande un peu qu'est-ce qu'il ferait. Donc, pour certains, s'ils sont pas dans la confiance ou s'ils sont pas prêts à ça, ça peut générer stress et même une frustration. Fait qu'il faut aussi être au fait de ça et donc de créer d'abord un climat de confiance avant d'en arriver là. Je pense que ça, c'est des conditions de succès. Mmh.
Comment on fait ça, bâtir de la confiance? Tu sais, tu as eu l'occasion de gérer plusieurs équipes. Tu as l'occasion maintenant d'être comme DG dans une nouvelle organisation. Là, ça fait maintenant quelques mois là, que tu es dans cette organisation-là. Il a fallu là, récemment que tu établisses ce lien de confiance-là. Un ou deux éléments qui, pour toi, amènent cette connexion-là avec les gens de ton organisation. Comment tu t'y es prise?
Je pense que de différentes façons. Tu sais, moi, personnellement, ce qui marche bien puis ce qui me définit, c'est ma capacité relationnelle. Donc, de prendre le temps. C'est drôle à dire, là, mais on est hyper sollicité, ça va vite. On le sait, puis ce qui nous arrive avec la pandémie en 2020 fait juste comme accélérer encore plus tout ce qu'on trouvait déjà assez intense. Par contre, c'est de trouver le temps de créer la connexion. Donc, d'abord individuel avec les gens, puis aussi en équipe. Donc, ça, pour moi, ça passe beaucoup par l'écoute aussi et aussi de la rétroaction. De donner aussi des conditions qu'on a le droit de se parler, qu'il faut se parler entre nous, que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Donc, comme leader, de mettre en place un contrat d'équipe, en fait, une alliance, et de se dire, bon, ben regarde, nous, on se permet ça comme condition et de le faire avec l'équipe, pas de l'imposer aussi comme leader. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais appris dans mon ancienne vie là, comme expérience, que j'ai réappliqué dans mon organisation actuelle qui fonctionne très bien. Donc ça aide aussi à bâtir un climat de confiance. Il faut être un exemple comme leader aussi auprès de nos gens. Donc s'il y a quoi que ce soit, ben, il faut aussi incarner l'alliance qu'on s'est donnée comme équipe.
Tu parles du feedback, Ariane, comme un des outils pour bâtir cette confiance-là. Ça prend un certain courage hein, pour donner du feedback. Je t'ai déjà entendu donner du feedback. Je t'ai déjà vu donner du feedback ou te préparer à donner du feedback sur certains éléments. Puis je trouve que tu as un équilibre entre cette empathie-là dont tu parles, cette capacité à connecter avec les gens. Et en même temps, le courage managérial de dire les vraies choses. Je peux juste imaginer que ça n'a pas toujours été si facile de faire ça. Qu'est-ce qui t'a permis de t'amener dans le bon mindset pour dire c'est important de donner du feedback, le bon comme ce qui est à développer?
Bien, ça va sembler peut-être très, très axé sur les résultats, là, ce que je veux dire, mais c'est l'atteinte des objectifs, tu sais, d'une certaine façon, parce que je me suis rendu compte deux choses. Atteindre des objectifs puis la création d'un climat de travail. Et en fait, j'ai dit les objectifs en premier, mais c'est le prérequis à atteindre des objectifs en équipe puis d'aller plus loin puis d'amener l'organisation à son prochain niveau. Ça prend un climat de travail positif. Ça passe par les gens. Ça, c'est vraiment important. Ce qui fait que, donc, quand on se dit pas les vraies choses et qu'on prend pas le courage, comme tu dis, puis c'est vrai, ça prend quand même un certain courage. Ça demande de l'énergie, tu sais, c'est plus facile de laisser aller les choses à court terme. À long terme, par contre, ça crée du dommage. Ça peut justement démobiliser une équipe qui voit un leader qui pose pas action sur quelqu'un qui est problématique puis qui nuit au climat de travail, entre autres. Ça peut générer des problèmes justement au niveau du sentiment d'équité au sein de l'équipe. Donc, quand on est sensible finalement et à ce que ça a comme impact sur l'humain, sur l'équipe et ensuite sur les résultats et sa capacité de les atteindre, ben je pense que c'est là, moi, que le switch s'est fait pour voir l'importance que ça a. Et sincèrement, moi, j'aime travailler. Je suis quelqu'un qui va chercher beaucoup de mon énergie de par le contact avec les équipes. Et donc, une équipe qui va bien m'amène cette énergie-là, mais une équipe qui va pas bien, c'est plus difficile. Fait qu'il faut être capable de dire les vraies choses puis d'évoluer pour atteindre vraiment un résultat là, très satisfaisant là, et célébrer des succès ensemble. C'est comme ça que je vois les choses.
Tu as parlé de célébrer les succès. Tu as parlé du contrat comme de l'entente. Là. Ça fait partie, comme tu le sais, là, du modèle qu'on propose, le modèle des 5C dans Propulser votre équipe. Le contrat comme une façon de se dire c'est à ça qu'on s'engage les uns envers les autres. Puis je suis curieuse de t'entendre faire le lien entre ça. Comment tu utilises ça, l'entente que tu as avec tes équipes,
puis ta capacité ou votre capacité comme équipe à célébrer justement ces victoires-là?
C'est une bonne question. Donc, dans le fond, en d'autres termes, c'est comment l'alliance, le contrat d'équipe qu'on s'est fait nous permet de célébrer nos succès?
Oui, exactement.
Ouais. Ben c'est une bonne question, mais ce que je dirais sur ce point-là, c'est que l'alliance en soi crée déjà un sentiment d'appartenance à l'équipe. À partir du moment où on se donne des règles et on se donne surtout le droit de se dire quand un ou l'autre ou nous-mêmes, on transgresse la règle. Puis tu sais, souvent, on peut faire ça à la blague, là. J'ai souvent fait et j'ai souvent vu le pot à 1$ là, de quand... Quand, par exemple, on n'avait pas mis l'objet dans la réunion, là. Fait que ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que ça crée cette solidarité-là d'équipe d'abord. Et donc, le lien que je fais avec la capacité ensuite à célébrer ces succès-là, c'est d'être justement capable de s'en parler, d'être une équipe solidaire, puis de soulever aussi les succès. Puis je dirais un petit peu plus loin, de célébrer même les échecs. Parce que dans l'alliance d'équipe, entre autres, qu'on s'est donné, c'est qu'on se donne le droit d'aller à l'erreur parce qu'on veut innover. Et donc, l'innovation, ça passe aussi par, des fois, on va se tromper. Donc, cette alliance-là aussi crée la possibilité de se permettre d'être heureux des apprentissages, je dirais ça comme ça.
Tu parles d'innovation. Ça me semble être un pont parfait pour parler de ton audience à toi, qui sont les ingénieurs, mais aussi les gens qui sont... qui ont une formation en génie, donc qui ne sont pas nécessairement ingénieurs, mais qui ont cette formation-là, c'est des gens qui ont ce désir d'innover, de trouver des solutions à des problèmes déjà existants ou des nouveaux problèmes, puis d'innover. Comment toi, ça te pousse à faire les choses différemment avec ton équipe pour répondre à ce désir d'innovation de ta clientèle?
En fait, une clientèle, en effet, qui est au cœur même de l'évolution de la société, si je peux dire ça comme ça, là, parce que il y a beaucoup, beaucoup d'innovation et d'évolution, en fait, des industries qui passent par l'ingénierie et donc les diplômés en génie. Ce que j'essaie d'incarner avec l'équipe, c'est vraiment de mettre le membre, puis ça fait un petit peu... très buzzword en ce moment de l'expérience client, là, mais de mettre quand même le membre au cœur des réflexions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est comme organisation, c'est comment on va l'aider d'une certaine façon et le supporter à travers ces innovations-là. Tu sais. Donc, comment on peut être un entremetteur, par exemple, de certains joueurs de l'industrie pour offrir des formations ou pour offrir du développement pointu pour eux en fonction des défis puis des soucis. Fait que c'est sûr qu'on est drivé comme équipe à vouloir comprendre encore plus, justement, sont où ces défis d'innovation-là et comment, comme organisation, on peut nous-mêmes innover pour pouvoir les accompagner d'une certaine façon.
Tu as parlé du droit à l'erreur, Ariane, puis ça m'a fait penser que dans beaucoup de domaines d'expertise, comme l'ingénierie, mais on le voit aussi auprès des avocats, on le voit chez les comptables, chez les architectes, donc dans beaucoup de professions, le droit à l'erreur, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça, hein, parce qu'on exige un niveau de perfection ou d'excellence qui est très élevé. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour... puis tu en as parlé un petit peu tantôt en début d'entretien, pour lâcher cette expertise-là ou lâcher le contrôle. Comment tu décrirais ça? Puis quel conseil tu donnerais à tes membres pour faire ce shift-là?
Tu poses de bonnes questions, hein, Madame Caron. Ben en fait, je suis pas certaine que c'est de lâcher le contrôle, tu sais. C'est plutôt de multiplier les options et de les contrôler. C'est ce que j'ai envie de te dire. C'est de se donner droit à l'erreur. Des fois, je l'ai dit à l'équipe, c'est on a droit à l'erreur, il faut juste pas la refaire deux fois. Donc, tu sais, c'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, dans quelle intention qu'on est en train de le faire, puis quel objectif qu'on se donne sur cet aspect-là, et d'accepter que on ne peut pas tout savoir dans les années où on vit et que ça se pourrait qu'on fasse un pari qui gagne pas. Ceci dit, c'est quand même d'essayer d'être de faire les choses, oui, rapidement, mais de prendre le temps de penser, puis de prendre le temps de calculer quand même son risque, là. Fait que c'est ça que le droit à l'erreur, il faut faire attention à l'interprétation, c'est pas de dire, ben OK, on se dépêche, on fait plein d'affaires, puis ce qui marche, on est content, ce qui marche pas, ben, on est content aussi, là. C'est pas ça le message. Mais c'est de se permettre justement à faire des essais calculés, contrôlés, mesurés, qui va permettre après ça de reprendre cette même essai-là, mais en changeant peut-être une ou deux variables pour arriver justement à un résultat différent. Donc, c'est plus comme ça, moi, que je le positionnerais, je dirais. Là.
Et puis, j'adore ça parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de prise de risque. Puis, quand on parle de ça, les gens, en effet, peuvent dire, ouais, mais on prend pas n'importe quel risque pour n'importe quoi, n'importe quand. J'aime beaucoup comment tu l'as positionné, de dire, c'est de se donner des options puis de contrôler ces options-là. Ouais. C'est mieux de refaire ce qu'on a toujours fait, qui serait de pas prendre de risque, là, si j'ai bien compris comment tu le présentes. C'est de dire, ben non, on se donne plusieurs options, on essaye plusieurs choses, mais avec des mécanismes de contrôle qui nous permettent de dire, ben ça, ça n'a pas fonctionné, donc on ne le refera pas, ou ça n'a pas fonctionné dans le contexte dans lequel on le fait, puis on mesure les autres pour voir justement qu'est-ce qui fonctionne. Je trouve ça vraiment très, très intéressant comment tu le présentes. Je l'avais-tu bien compris?
Oui, exactement, exactement.
Fait que l'innovation comme leader, c'est aussi de continuer à se développer continuellement. Je sais que pour toi, ça, c'est vraiment important de toujours garder à l'affût ton propre développement, toujours être la meilleure version de toi-même comme leader. En ce moment, tu dirais que tu, comme DG, ton plus grand point de développement pour te permettre de réaliser ta CSU, ta contribution stratégique unique, c'est quoi?
Actuellement, en fait, l'élément le plus important, c'est d'avoir à regarder l'organisation sur son 360, puis de garder cet équilibre-là. T'sais, actuellement, comme DG, c'est de reprendre les fonctions globales de Génium 360 et donc d'identifier vraiment qu'est-ce qui va avoir de l'impact le plus rapidement en fonction de la vision qu'on est en train de se donner pour notre futur. Plutôt que de regarder juste une partie, qui était le marketing dans mon expertise. Donc, ça, c'est quand même un changement aussi de perspective extrêmement intéressant et extrêmement aussi puissant de regarder le modèle de l'affaire dans sa globalité et aussi de travailler justement avec une plus petite équipe dans un contexte d'OBNL. Ça, c'est une évolution qui est en développement là, chez moi. Tu sais, j'ai fait le choix de quitter l'industrie des services financiers après 20 ans qui m'ont amené énormément justement sur la façon de réfléchir, la rigueur, l'importance justement du client, de la donnée, etc. Mais comment on transpose ça dans une organisation de plus petite taille, avec une mission différente, avec des ressources moindres, beaucoup moindres. Donc ça aussi, c'est un apprentissage pour s'assurer finalement que l'organisation, ben c'est mes poches, fait que les choix financiers qui sont faits, ben il faut que ce soit les bons, fait que ça fait du bien. Je dirais, là, j'avais envie de ça justement de me rapprocher aussi de ça et de cette proximité là. Et de travailler tout ça avec l'équipe, puis l'équipe, j'entends l'équipe de la permanence, mais aussi l'équipe du conseil d'administration qui me supporte, bien sûr, au quotidien à travers ça, puis avec lesquels on discute aussi de l'avenir de l'organisation de façon importante.
C'est intéressant cette dynamique-là, hein, de pouvoir travailler avec un comité un CA, dans le fond, qui nous permette de réfléchir à des aspects encore plus stratégiques, j'imagine, là, puis qui nous permettent d'élever notre hélicoptère et d'être en même temps connectés sur le terrain des vaches, comme on dit. Donc, c'est de balancer ça. Comment on fait ça pour balancer ce niveau-là d'être haut et en même temps plus opérationnel?
C'est un beau défi, sincèrement, ce changement de perspective à chaque heure, quasiment. Là, c'est sûr que c'est un aspect du travail qui est super intéressant, super motivant, en même temps super épuisant. et donc, je dirais que la recette pour moi, là, c'est de travailler avec l'équipe. de former l'équipe, de clarifier avec les gens leur imputabilité, leur portée d'action pour aller, c'est l'extension. Des fois, je dis à l'équipe, moi, je fais rien dans le fond. Là. je m'entoure, donc, d'être capable justement de développer les bonnes personnes face à mes défis opérationnels, d'une part, mais aussi aux défis plus stratégiques, puis de travailler en équipe dans ça, puis d'être clair donc sur les besoins, puis d'identifier donc les compétences à bâtir puis à aller chercher.
Ariane, on est presque à la fin de notre podcast. J'en reviens pas comme ça va vite. On a le temps pour ce que j'appelle les questions d'une minute où je te pose quelques questions puis tu as quelques secondes pour y répondre en rafale. Qu'est-ce que c'est ta CSU, ta contribution stratégique unique?
Bien, comme dirigeante de Génium 360, bien, mon travail, c'est de donner le sens de direction. Donc, la destination pour assurer à Génium 360 une pérennité, puis une croissance aussi de son organisation. Donc, comment on peut encore mieux répondre à notre mission, comment on peut s'assurer de bâtir pour le futur. Donc, ça, c'est pour moi ma CSU.
Un truc que tu pourrais partager pour propulser son équipe?
Le coaching.
OK, je ne poserai pas plus de questions, je vais regarder ça là. Un conseil que tu peux donner à un leader qui veut vraiment monter son jeu?
Prendre du recul d'abord, mettre de la clarté sur ses défis. En parler aussi à quelqu'un, tu sais, bon, tant mieux si cette personne-là a la chance d'avoir un coach, mais des fois, c'est juste avec quelqu'un qui est dans une autre organisation, avec une autre perspective, pour permettre de déboulonner là, un petit peu les défis, de mettre de la clarté, de les prioriser, puis de se faire un plan. Donc, c'est quoi l'intention, où on veut être dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ça, et après ça, c'est quoi le plan d'action pour y arriver, là, ça aide beaucoup. Ça serait mon conseil. Ouais.
Et si tu avais à résumer le leadership en 3 mots?
Inspirer, guider, puis dynamiser, je dirais. Puis ça donne des résultats. Les 3 ensemble, je pense que ça peut donner un 4e mot qui serait résultat d'un bon leader.
Ben, Ariane, tu es définitivement inspirée, tu es définitivement inspirante. Merci pour ce temps passé avec nous. Ça a été un plaisir, un réel plaisir.
Ouais, merci, Chloé, pour ce temps-là. Puis je te souhaite une super continuité.
Merci.
Merci d'avoir écouté ce podcast « Propulser votre équipe ». Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous pourrez mettre en pratique les outils et les idées partagées. Pour plus de contenus gratuits, d'événements et d'outils de développement, visitez notre site web au propulsezvotreéquipe.com ou sur nos pages LinkedIn ou Facebook. Et assurez-vous de vous inscrire à notre infolettre pour continuer à recevoir du contenu et des informations « Propulser votre équipe ».